La semaine dernière, j'ai pu assister à la soutenance d'un mémoire d'un jeune de ma société. Et le sujet de son mémoire, c'était la motivation au travail d'une équipe de commerciaux indépendants. Alors mon travail, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'être commercial sur ma région, donc la région du Nord. Et je suis assez autonome dans ma manière de travailler. J'ai mon chef peut-être 2-3 fois par semaine, mais c'est vrai que je suis assez indépendant dans ma manière de travailler. J'ai trouvé assez intéressant le recul que lui m'a fait prendre sur mon métier et ce qui me motivait à faire mon travail. Parfois bien et parfois moins bien, on ne va pas se mentir. Je passe mes journées seules avec mes clients et parfois avec mon concurrent, et il est parfois difficile pour les commerciaux de se motiver, de trouver une motivation dans mon travail. On a tous le besoin de temps en temps d'avoir « allez, bon courage » ou « bien joué » ou « bon travail ». Ce sont des choses qui sont bonnes pour la motivation. Et quoi qu'il en soit, donc j'emprunte à mon protégé quelques-unes de ses recherches sur le sujet de la motivation, qui m'ont rappelé d'ailleurs mes études. Alors, comment définir la motivation ? Certains chercheurs très qualifiés ont su définir cette notion donc, de différentes manières. Là, j'aurais dû les afficher pour que vous puissiez les voir, c'est plus facile, mais je vais simplement les lire pour vous. Alors, Berelson, en 1983, disait « La motivation est un état interne qui donne l'énergie, fait activer ou fait déplacer et qui dirige ou canalise le comportement vers un but. » Ça fait beaucoup de mots, mais ça devrait aller normalement. Stairs and Porter, en 1982, disait « La motivation est une force énergétique qui stimule le comportement humain pour la réalisation d'un but défini. Elle est un mélange de dispositions internes et d'opportunités externes qui dirigent ou canalisent le comportement humain. » Je continue. Lévi-Le Boyer, en 84, « La motivation est un processus qui implique la volonté d'effectuer une tâche ou d'atteindre un but. » Ou enfin, « La motivation est la force qui initie un comportement et l'oriente vers un but dont l'atteinte procurera une satisfaction à un besoin. » Alors, de ces différentes définitions, pas forcément de tout retenir, pas la peine de tout retenir, mais on peut considérer quelques points communs. D'abord, le fait que la motivation soit orientée vers un but à atteindre. Sans but, aucune motivation. Et la motivation canalise notre volonté et nos efforts. Enfin, elle ne dépend pas uniquement de nous-mêmes, mais elle dépend aussi de facteurs externes. Et ce facteur externe, souvent, les facteurs externes, ce qui va nous motiver, va nous amener à la satisfaction d'un besoin. Est-ce que jusqu'ici tout va bien ?
Oui.
J'ai perdu personne. J'ai l'air de retourner à l'école avec mes cours de management. Là, en plus, il y a un paper et tout. C'est génial. Mais jusqu'ici, ne vous inquiétez pas, ici aussi j'ai un but. Et c'est ce qui me motive à continuer dans mes explications. Rien à voir, ou presque. Avec les ados, cette année, nous avons fait une série de classes qui décrivaient toutes les relations qui faisaient notre vie. Et il y avait 4 dimensions dans nos relations. La première relation, c'était la relation qu'il y avait entre moi et moi. La deuxième relation, c'est entre le monde et moi. La troisième, c'est entre mes frères et sœurs en Christ et moi, donc l'Église. Et la dernière, c'est la relation entre Dieu et moi. Et je leur ai demandé d'être honnête et de faire une hiérarchie entre les différentes relations, de la plus importante à la moins importante. Et ce qui concentrait le plus leur énergie et leur motivation. Et effectivement, d'après vous, quelle était la relation qui canalisait le plus de leur énergie ? Une idée ? Entre moi et moi, effectivement. Et à part pour les meilleurs d'entre nous, mais la relation qui canalise le plus notre énergie, c'est notre relation à nous-mêmes. On passe beaucoup de temps à se regarder. Et bien évidemment, ça peut être à notre corps défendant, on peut chercher Dieu, mais naturellement, nous sommes portés à regarder vers nous-mêmes. Ça paraît peut-être abrupt comme ça, mais j'aimerais illustrer cette idée par une autre notion de management dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la pyramide de Maslow. Voilà. Pour l'étudiant en école de commerce. Pour vous, non? Non? Bah alors, très bien, comme ça. Comme ça, on apprendra quelque chose ensemble. Donc, dans sa théorie de la motivation, Maslow établit une hiérarchie de besoins. Et comme vous pouvez le voir, vous avez dans un premier temps les besoins physiologiques. Je vais détailler après. Donc vous avez les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime, et dans un dernier temps, le besoin d'accomplissement. Dans un premier temps, donc, vous avez les besoins physiologiques, donc c'est la base la plus large, c'est les besoins qui sont le plus facilement satisfaits, accessibles à la plus grande population. Donc ce sont les besoins qui sont directement liés à la survie des individus ou de l'espèce humaine. Donc ce sont les besoins concrets, type faim, soif, sexualité, etc. Dans un second temps, vous avez le besoin de sécurité. Donc le besoin de sécurité consiste à se protéger contre les différents dangers qui nous menacent. Il s'agit d'un besoin de conservation d'un existant ou d'un acquis. Et ça s'inscrit dans une dimension temporelle. Donc par exemple, ça va être construire une maison. Ça va être accumuler, faire des stocks, mettre de l'argent de côté, s'occuper de sa santé, ou alors privilégier la stabilité, etc. Sur le principe, est-ce que ça va? C'est bien compris. Dans un troisième temps, donc le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance révèle la dimension sociale de l'individu, qui a besoin de se sentir accepté par les groupes dans lesquels il vit. Donc les groupes, ça peut être la famille, ça peut être le travail, une association ou l'église. Et donc cet individu se définit alors par rapport à ses relations. Par exemple, ce besoin d'appartenance, ça va être sentir une dépendance vis-à-vis de soi ou vis-à-vis d'un groupe, obtenir un statut social, s'intégrer à un groupe, partager, etc. Quatrième point, donc vous avez le besoin d'estime. Donc le besoin d'estime prolonge le besoin d'appartenance. L'individu souhaite être reconnu en tant qu'entité propre au sein des groupes auxquels il appartient. Par exemple, ça va être sortir du lot. Ça va être reconnu ou apprécié, s'affranchir, exprimer sa compétence. Donc ça va être toutes ces choses-là, le besoin d'estime. Et le dernier besoin que décrit Maslow, c'est le sommet des aspirations humaines. C'est le besoin d'accomplissement. Donc ce besoin vise à sortir d'une condition purement matérielle pour atteindre l'épanouissement. Donc par exemple, ça va être s'épanouir, méditer, approfondir sa culture, affirmer son caractère unique. Voilà, donc tout ça, ça va faire partie du besoin d'accomplissement. Jusqu'ici, tout va bien. Donc selon cette théorie, il existe une hiérarchie dans ces besoins. Et on ne peut pas accéder aux besoins d'après uniquement lorsque le besoin précédent est partiellement ou totalement atteint. J'explique. Donc vous avez le besoin physiologique qui est boire, manger, par exemple. Et donc une personne qui est démunie, qui a faim toute la journée, ne va pas pouvoir avoir besoin de sécurité, d'avoir besoin d'un toit ou ce genre de choses. Il va avoir besoin d'abord de satisfaire ce besoin de survie avant de passer au second, et etc. A contrario, un employé dans une entreprise, à partir du moment où il se sent intégré, à l'aise dans son poste et avec des résultats, il va naturellement aspirer à avoir plus de responsabilités. Et avoir plus de responsabilités, ça va satisfaire son besoin d'estime et de reconnaissance. Donc après son besoin d'appartenance, donc être bien dans son entreprise, avoir compris son job, il va avoir besoin d'estime, donc plus de responsabilités. On est bon sur cette théorie ? Donc c'est un modèle imparfait, je reconnais, mais intéressant dans la mesure où il décrit les besoins qui parcourent notre vie. Mais à ce point de ma présentation, je me pose une question. Sommes-nous appelés à faire de nous-mêmes le centre de nos vies? À ce point-là? Je l'ai dit tout à l'heure concernant la classe que j'ai faite avec les ados, la relation entre moi et moi doit-elle vraiment prendre autant de place dans ma vie? Est-ce qu'elle doit être au sommet de la hiérarchie de relations qui font ma vie? Alors un dernier besoin existe. Il est très peu partagé, on n'en entend quasiment jamais parler dans les publications, mais pourtant c'est un sixième besoin qui a été défini. C'est le besoin d'éternité. Si là, je ne sais pas si tu en as entendu parler dans tes cours, Pierre-André. Ben non, moi non plus. C'est en faisant ces recherches, effectivement, il y a un sixième besoin dans cette hiérarchie des besoins, c'est le besoin d'éternité. Et dans le commerce, et je rajouterais plutôt même dans le domaine de la vanité, c'est le besoin qui va répondre à ce besoin, à cette envie de rajeunissement. Cette recherche effrénée de cette source de jouvence. Donc ça va être tous les produits de rajeunissement, des crèmes pour les yeux, ce genre de choses, pour pouvoir apparaître plus jeune qu'on ne l'est vraiment. Et ce besoin d'éternité, ce besoin de prolonger notre vie, ou en tout cas notre apparence de jeunesse, il est souvent occulté parce qu'il nous pousse à nous poser non pas la question de demain ou de maintenant, mais celle de notre fin. Et cette question de notre fin, c'est une question qui nous dépasse largement. Et pourtant, c'est le besoin le plus important, car c'est celui qui donne du sens à notre vie. C'est celui qui donne de la couleur à ce que nous faisons. Alors, vous vous souvenez, quand je parlais tout à l'heure de motivation, je disais que la motivation est orientée vers un but. Alors, quel est le but que nous poursuivons dans notre vie? Alors, pour Paul, c'est simple. En Philippiens, chapitre 3, au verset 12 à 14, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. » pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, de Dieu en Jésus-Christ. Remporter le prix de la vocation céleste. Voilà ce qui donnait du sens à la vie de Paul. Est-ce que c'est notre but dans notre vie? Est-ce que le sens de notre vie est donné et est défini par ces versets-là? Ce besoin d'éternité, ce sixième besoin est très important. Et pour nous, nous le connaissons. Nous avons une réponse à ce sixième besoin. C'est d'être avec notre Père dans les cieux. Et c'est ce qui remporte tout sur son passage. Et dans une nouvelle pyramide que j'avais faite, mais que ça va prendre trop de temps à refaire, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de besoin à satisfaire avant de passer à un autre, puisque celui qui nous a appelés, notre Dieu, subvient à tous nos besoins en même temps. Alors je reviens à tous ces besoins, physiologiques, sécurité, appartenance, estime, accomplissement. En ce qui concerne les besoins physiologiques, Jésus ne dit-il pas en Jean chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Ou alors, en Luc chapitre 12, au verset 29 à 31, Jésus ne dit-il pas « Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. » Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus, lui, a pris en compte ce besoin physiologique. Et en ce qui concerne ce besoin de sécurité, ce besoin d'accumuler, de prévoir le lendemain, Jésus ne dit-il pas « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus a aussi pris en compte ce besoin de sécurité. Et en ce qui concerne notre besoin d'appartenance, combien de fois nous avons entendu « Mais je n'ai pas ma place dans cette église. Je n'ai pas ma place dans cette assemblée. » Si vous vous reconnaissez dans ces mots, alors Jésus ne dit-il pas « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous sommes son troupeau. Nous appartenons à Jésus-Christ. » En 1 Jean chapitre 3, au verset 1 à 2, Jean ne dit-il pas « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement... » Alors, attendez, 1 Jean 3... Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et en 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Si nous disons que nous ne nous trouvons pas notre place, nous regardons au mauvais endroit. Dieu nous a déjà appelés ses enfants, nous sommes son troupeau, nous sommes tous membres les uns des autres. Cette question n'a pas lieu. En ce qui concerne le besoin d'estime, encore ce qui est le prolongement du besoin d'appartenance, de la même manière, Jésus ne dit-il pas « Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis et en ayant perdu une, ne laisse les 99 autres au désert et ne s'en aille après celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ? Et l'ayant trouvée, il la met sur ses propres épaules, bien joyeux. Et, étant de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins leur disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. » Je vous le dis, qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont point besoin de repentance. Jésus a fait ça pour chacun d'entre nous, qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Malgré notre état de pécheur, qui ne méritait ni son pardon, ni même son regard, Jésus a quitté son trône pour nous réconcilier avec son Père. Lui qui n'a point vu comme une proie à arracher d'être réduit à l'état d'homme. Il est venu pour nous. Il nous a considérés. Et en ce qui concerne ce besoin d'accomplissement, Paul a connu cet état lorsqu'il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul réalise pleinement sa condition d'homme lorsqu'il laisse Christ agir en lui. De même, nous nous accomplissons pleinement lorsque l'Esprit, le Saint-Esprit agit en nous. Nous approfondissons notre culture, la connaissance de notre Père. Nous connaissons ce verset « Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. » Alors on le voit, la parole considère tous ces besoins. Tous ces besoins ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils sont tournés vers la mauvaise personne. Et enfin, ce besoin d'éternité, comme je l'ai dit avant, c'est de remporter le prix de la vocation céleste, être au ciel avec notre Père pour l'éternité. Ceci étant dit, le fait d'avoir répondu à tous ces besoins suffit-il pour être motivé pour notre Seigneur? Je l'ai déjà dit et je le répète, Jésus répond à tous nos besoins. Mais en réalité, répondre à nos besoins ne doit pas être notre source de motivation. Notre source de motivation, c'est que Dieu est Dieu seul. Nous servons Dieu non pas parce que nous sommes motivés, mais nous servons Dieu parce qu'il est Dieu et digne d'être servi. Notre Seigneur nous dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et cela nous suffit. Alors, nous ne sommes pas ici en pensant à nous en premier, en disant « En venant ici, j'aurai peut-être un petit peu de bien-être, ça me fera du bien ». Mais nous sommes ici parce que nous cherchons à plaire à notre Seigneur et parce qu'il nous a demandé d'être ici. Donc c'est ainsi que, quand même, ça reste visuel, nous avons cette nouvelle matrice sans hiérarchie. Jésus, qui est la réponse à toutes les questions de notre vie, eh bien c'est lui qui en devient le centre. Et donc j'avais fait... Donc un petit peu ce schéma, où donc vous avez toujours tous ces besoins, ce besoin physiologique, besoin de sécurité, d'accomplissement, besoin d'estime et besoin d'appartenance. Donc à ce besoin, je soulève un petit peu, donc à ce besoin physiologique, Jésus, la réponse c'est Jésus, qui est une source d'eau vive. À ce besoin de sécurité, eh ben, nous avons Jésus qui est notre seul trésor. À ce besoin d'estime, nous avons notre Jésus sauveur. Besoin d'appartenance, Jésus bon berger. Et enfin, besoin d'accomplissement en Jésus seul. Donc retenons ce matin que nous n'avons pas besoin de motivation pour être là. Notre seule motivation, c'est que Jésus est Jésus et qu'il est notre maître.